S'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui êtes encore dans le hall d'entrée, je vous demande de regagner la salle de conférence car nous devons reprendre. J'aimerais que nous soyons aussi stricts sur les horaires que nous l'avons été hier. Il y a un petit peu de relâchement aujourd'hui. C'est le deuxième jour. C'est samedi. C'est le week-end.
C'est beau de voir les gens assis sur les marches. C'est beau de voir les gens assis sur les marches. Oui. Et à Avignon, je pense qu'il y a un... Non, elle était pas... On ne peut pas échapper. Et donc pendant combien de jours?
Pas encore bien calibré.
Il faut dire qu'avec 300 personnes, moi je bois pas.
Non, mais alors ça,
j'ai... Il n'y a aucune raison, c'est vrai. Pourquoi non plus Il y a eu Canouille à côté, tu vois. En colère.
Elle est apparue, elle est... en plus, elle s'est manifestée comme victime du temps, mais elle a un contrat. Elle se préparait. Je répète. Ben oui. Ben oui.
Ceux qui sont impatients que ça commence, je vous invite à rentrer dans le ressenti. Prendre une douce voix hypnotique. Concentrez-vous sur vos sensations dans le corps. Sans jugement.
Merci.
Voilà le président, donc maintenant on va pouvoir commencer. Donc nous allons poursuivre nos interventions avec de nouvelles approches thérapeutiques. Deux approches particulières, nouvelles. C'est pour ça que nous les avons prévus dans ce programme. comme l'a rappelé Cyril Tarquinio, ça ne veut pas dire que les autres approches ne soient pas efficaces, mais les méthodes plus anciennes qui font partie de la fédération sont plus connues et c'est pour ça qu'on les représente moins dans nos colloques, mais l'an prochain, lors du congrès qui sera dédié à toutes les méthodes de la fédération et aux nouvelles méthodes, là, il y aura un temps d'expression qui sera différent. Donc, nous avons invité Catherine Clément et François Ledoz cette année à nouveau. Catherine est intervenue déjà il y a 2 ans dans le colloque sur l'attachement et l'empathie et la violence éducative. Sur le modèle qu'elle va nous présenter aujourd'hui plus brièvement, qui est l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. Catherine, donc, et j'en profite pour la présenter, est psychiatre, une activité en libéral, jusqu'à récemment à Paris, maintenant dans le sud de la France, pas loin d'Avignon. Et elle a plus spécifiquement étudié les rapports du nourrisson, du rapport mère-enfant. Tu as fait ton...
J'ai fait mon mémoire sur le lien mère-nourrisson.
Donc elle connaît bien les problématiques d'empreinte précoce. Et elle est présidente de l'association ICV, Intégration du cycle de la vie, qu'elle anime avec Johanna Smith, que vous avez vu hier. François, donc, j'oublie aussi de dire quand même que tu as traduit les livres de Peggy Pace, qui est la fondatrice du modèle aux États-Unis. Peggy Pace, qui fait partie de cette grande communauté des praticiens de l'EMDR, et
qui a fait partie,
qui a, tu nous expliqueras qu'elle a un peu laissé tomber l'EMDR, c'est ça? Bon. Donc, Catherine traduit Peggy Pace et assure des formations à l'ICV. François Ledoz donc, est neurologue au CHU de Caen et psychothérapeute, m'a-t-il demandé de bien préciser.
Absolument, merci.
Donc effectivement, je peux témoigner que tu as à la fois une pratique de neurologue, praticien hospitalier, je crois dans un service de psychosomatique.
J'ai une consultation de médecine psychosomatique. J'ai une consultation de médecine psychosomatique, mais le service est un service de neurologie générale.
Et tu as également maintenant une pratique de clinicien en IFS, donc okay. Internal Family System, ou système interne...
Familial intérieur.
On dit toujours IFS, alors...
On va dire un IFS, c'est plus simple, comme on dit EMDR.
Donc, tu as introduit ce modèle en France. Tu as traduit également son inventeur, qui est Richard Schwartz, un Américain qui a dû aussi connaître un peu le MDR. Non, je crois que lui, il est plutôt systémicien à la base, thérapeute familial. Et donc, Richard Schwartz a écrit un livre sur l'IFS et que tu as traduit, qui est sûrement en vente ici.
J'espère.
Et ça, c'est à toi de voir avec ton éditeur. Et puis, tu assures les formations.
Je suis en train d'écrire un livre qui sera publié chez Odile Jacob, j'espère, au printemps 2014.
Voilà. Sur quoi ?
Sur le modèle IFS et comment le modèle IFS, à travers ma propre expérience, je peux en faire témoigner de son intérêt pour moi et pour les autres.
Voilà. En tout cas, tu fais beaucoup d'émules à Caen, notamment notre chercheuse en neurosciences qui nous a fait un brillant exposé sur le cerveau hier, Laurence, qui peut se déclarer également psychothérapeute en IFS maintenant. C'est formidable quand la science peut rejoindre la clinique. Alors, nous allons entamer cette table ronde qui va d'abord se passer en 2 temps. Je vais inviter Catherine et François à présenter rapidement leur modèle. Ah oui, j'ai oublié de dire que François était venu le présenter déjà l'an passé dans le colloque Socrate en neurosciences. Donc, pourquoi je leur ai demandé de revenir cette année parce que je trouve que leur... modèles et leurs différentes interventions, que ce soit au niveau des exposés ou que ce soit dans leur pratique clinique que je connais personnellement, sont très efficientes, pour reprendre un mot de Cyril Tarquinio, c'est-à-dire vraiment avec des résultats que j'ai pu constater. Elles sont nouvelles. Et puis, j'ai voulu aussi les mettre ensemble sur cette table ronde pour justement que nous puissions avoir une... comment dire ? Que ça mette en perspective les modèles, ces deux modèles, par rapport à une problématique que nous avons tous, qui est de permettre à nos patients d'intégrer leur mémoire traumatique ou partie de soi, pour prendre une terminologie de l'IFS, ou état du moi, pour prendre une terminologie de l'ICV. Et j'ai souhaité les interroger tous les deux, ce sera la deuxième partie de cette table ronde, sur les concepts qu'il y a derrière tout ça, enfin les définitions qu'ils ont chacun de ces mots, le moi, le soi, le self, l'être, les parties ou les personnes ou personnages, les états du moi, les réseaux neuronaux qu'il y a derrière tout ça. Également, nous donner leur définition du traumatisme, simple ou complexe, de la dissociation, qui est le thème sous-jacent de ce colloque. Qu'est-ce qu'ils entendent par intégration des souvenirs traumatiques et comment ils interviennent par rapport à cette fameuse fenêtre de tolérance que Marie-France Gisard a rappelée. Enfin, comment tous les deux, chacun dans vos modèles, vous appréhendez les problématiques du trouble de l'attachement, sachant que l'ICV a un protocole très intéressant qui est un protocole de naissance, où là vraiment on répare les empreintes précoces dans le préverbal, hein, vraiment dans l'archaïque. Et est-ce que l'IFS peut travailler de la même façon? Et enfin, pourquoi tous les deux? Parce que je les aime beaucoup tous les deux, c'est ce qu'ils m'ont dit, ça c'est vrai. Je fais le lien personnellement, mais parce que tous les deux, dans ces deux modèles, il y a une particularité commune qui est de travailler avec un patient qui a les yeux fermés, qui travaille avec sa partie cognitive émotionnelle, on invite à parler, à penser, on invite à exprimer son émotion, mais on invite aussi, et c'est vraiment sur ce troisième plan que l'on travaille beaucoup dans ce colloque, à ressentir et donc à travailler avec ce qu'on appelle le sensorimoteur, donc le cerveau reptilien. Donc ces deux modèles balayent les trois cerveaux, que nous a bien expliqué Laurence Carluer hier. Et Laurence a bien montré que le psychotrauma, eh bien, se trouve dans les trois dimensions du cerveau. Alors, comment relier ces trois cerveaux? C'est ça qui est difficile pour le thérapeute. Et on va voir comment ces deux modèles peuvent nous y aider et donc comment on peut intégrer cette mémoire traumatique, comment on intègre cette mémoire dans le récit autobiographique qui fait la stabilité de l'individu. Donc, je vous donne la parole. Honneur aux femmes.
Bien sûr.
Catherine.
Merci. Je vais pas renverser ton verre. Alors, il ne marche pas là, je pense. Si.
Bonjour. Déjà, je suis très très contente d'être là à nouveau pour parler de ce modèle qui est l'intégration du cycle de la vie, qui, 2 ans après être venue ici, continue à me montrer toute sa puissance, son efficacité. Et je vais commencer par une petite ligne du temps. La ligne du temps, c'est l'élément principal, l'outil que l'on va utiliser quand on travaille en intégration du cycle de la vie. Et j'ai trouvé que Michel, hier, dans la façon dont elle a organisé les présentations, il y avait déjà une ligne du temps. On a démarré déjà avec M. Canoui, où j'étais très très contente. Vous avez entendu que moi, j'ai commencé dans mes études, enfin j'ai terminé mes études de psychiatrie avec un mémoire sur le lien mère-nourrisson, donc l'importance de ce lien. Et M. Canoui, qui d'entrée de jeu nous parle de ce bébé, et même peut-être avant qu'il soit conçu, quand il est conçu, et il est déjà assez jeune pour être traumatisé. Et comment toute psychothérapie nous conduit, on va aider notre patient à arriver à une autonomie de la pensée et à une responsabilité de sa personne. Et ça me semble très très important. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'un bon modèle psychothérapeutique, c'est celui qui amène notre patient à retrouver son autonomie et la responsabilité de sa personne. Et très souvent, les personnes qui arrivent chez nous ont perdu ces deux choses-là. Et donc, après, il y a eu M. Marc qui tout de suite nous a mis dans le vif du sujet avec la définition du traumatisme vu par Freud et qui, à mon sens, est quand même toujours très, très actuelle. Et c'est plutôt peut-être comment on va travailler avec. Freud l'a peut-être un peu mise de côté, mais elle est quand même toujours là et très, très présente. Pour continuer par le docteur Croc, hein, c'est ça, je ne me trompe pas sur la prononciation, qui parle vraiment des traumatisés de guerre, comment tout ce travail qu'il a fait, qui évoque la dissociation. On parle déjà de la dissociation en 1889, je crois que Janet parlait très très clairement déjà de la dissociation, la compulsion de répétition. Déjà, on avait compris comment nos patients traumatisés sont enfermés. Ils n'arrivent pas à sortir de ce trauma et ils ne sont même pas conscients très souvent de cette compulsion de répétition. Et on a continué à remonter cette ligne du temps avec Johanna, qui nous dit tout de go que le cerveau, c'est un... Je ne suis pas une spécialiste du cerveau, il y a Laurence qui nous en a très très bien parlé, mais qui est un tissu associatif très très riche. Et c'est vrai que moi, je me souviens toujours, ça avait dû déjà, quand j'ai commencé mes études de médecine, on avait des cours de neuroanatomie, et ça m'avait toujours frappé. Ça, c'est toujours resté quelque part dans ma tête, plein de choses que j'ai oubliées, mais la richesse associative, déjà, on nous en parlait en neuroanatomie, du tissu neuronal. Donc, Johanna qui nous parle de la richesse de ce tissu associatif et comment le trauma vient arrêter ces associations. Ces associations deviennent finalement dangereuses, ou en tout cas, on n'y arrive pas, parce que l'amygdale court-circuite l'hippocampe. On ne peut plus traiter toutes ces informations, alors que normalement, on ne fait que ça, 24 heures sur 24, même quand on dort, quand on se repose, on traite tout le temps nos expériences de vie. Et là, j'aurais envie de dire nos expériences de vie mauvaises, quand elles ne nous débordent pas, mais aussi nos expériences de vie bonnes. On oublie de dire que nos patients, ils ne traitent pas non plus ce qui leur arrive de bien. Et on voit ça aussi se rouvrir. Pour continuer donc par M. Schittkat, qui vient nous parler de l'importance de réintroduire vraiment le sensorimoteur. Et là, on voit déjà les trois niveaux de cerveau, le cortex, et ensuite le cerveau limbique, et puis le cerveau reptilien. L'importance que ces trois cerveaux-là soient activés, pas trop activés, mais activés, pour que le processus de traitement, de retraitement, puisse être mis en route, pour que l'amygdale puisse recommencer à discuter avec l'hippocampe et vice-versa. Par petites tranches, ça c'est très important, en ICV aussi. Je vous dis tout ça parce qu'on va retrouver tout ça dans l'intégration du cycle de la vie. C'est en sensorimoteur où j'ai fait une bonne partie du cursus sensorimoteur. On parle bien de ces micro-tranches, de slivers en anglais. Enfin, c'est des tout petits bouts. On nourrit petit à petit, on n'inonde pas le système. Et chaque fois, on traite un peu plus. Et pour terminer, c'était bien que Laurence arrive là sur la fin de cette journée pour nous montrer vraiment tellement, tellement simplement et clairement ce qui se passe dans notre cerveau. Et le fait qu'il y a des empreintes, que les traumatismes laissent des empreintes, mais que ces empreintes sont réversibles. Et je voudrais juste préciser, quand on dit réversible, je pense que c'est important, et quelqu'un l'a dit hier, c'est pas on va revenir à comme avant. On va enlever cette empreinte traumatique. Et très souvent, je pense que mon confrère ici ne me contredira pas, et les autres thérapeutes, on en sort grandi. Quand on a commencé à pouvoir intégrer l'événement traumatique, ça nous amène d'autres solutions, on en sort vraiment grandi, on avance autrement dans notre vie. On ne revient pas à comme on était avant, ce serait dommage, parce que finalement on ne fait que grandir dans notre vie, on ne fait que continuer à toujours intégrer nos expériences de vie, bonnes ou mauvaises. Donc l'ICV, voilà, maintenant que je vous ai fait un petit rappel, comme ça j'ai un peu activé tous vos neurones sur tout ce qu'on a pu entendre hier, ça va vous permettre peut-être de comprendre, et je vais être très, j'ai envie de dire, pratico-pratique, je ne veux pas faire de la théorie, je veux vraiment vous parler du modèle de l'intégration du cycle de la vie, ICV, voilà, je dirais plutôt ICV, ça ira un petit peu plus vite. Très vite, Peggy Pace, donc, qui a élaboré ce modèle, est tombée dessus. C'est souvent comme ça. Il y a maintenant une bonne douzaine d'années, c'était un thérapeute EMDR, une facilitatrice EMDR, superviseuse même, je crois, EMDR. Et elle venait quand même se cogner, comme moi aussi, j'ai commencé par l'EMDR. On est venus tous régulièrement se cogner comme ça, quand il y a des choses. Effectivement, sur un trauma, sur un ESPT, c'est fabuleux. Sur un trauma simple, on vient vraiment soulager les choses. Mais quand il y a des histoires complexes derrière, des niveaux de dissociation plus importants, quand même, on rame. Et quand j'ai entendu parler de Peggy Pace, donc je suis allée à sa formation, et elle propose un protocole sur lequel dont je vais parler un petit peu plus, qui est celui de la naissance au temps présent, qui va vraiment travailler sur reconstruire ou construire, parce que souvent, bien souvent, il n'y a même pas eu ce travail pendant la période de l'attachement, la mise en place d'un attachement sécure, de 0 à 2, 3 ans. Donc là, elle permet vraiment la mise en place d'un attachement sécure, ce qui fait qu'après les traumatismes, on peut vraiment les traiter. Ou alors, ayant mis en place cet attachement sécure, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se traitent toutes seules. Parce qu'on a relancé, on a redonné, ou on a donné au cerveau cette capacité à traiter ce qui lui arrive dans la vie. Donc si on travaille sur ce qu'on appelle le protocole standard, alors la partie centrale de l'intégration du cycle de la vie, c'est la ligne du temps. Peggy Page s'amuse à dire qu'on pourrait ne faire que de la ligne du temps et on aurait une réponse, un résultat thérapeutique. La ligne du temps. C'est un peu ce que je vous ai fait tout à l'heure, sauf là sur un temps, quoique non, j'ai fait très rapidement sur un temps très long, sur une centaine d'années, on aurait même pu démarrer avant. Mais on va demander au patient de construire une liste de souvenirs, quels qu'ils soient. Un bon souvenir, un mauvais souvenir. Un souvenir est toujours chargé à partir du moment où on dit souvenir, c'est qu'il y a une émotion. Hein, sinon, ça n'est pas un souvenir. Mais bon, quelque chose de moins marquant, même si, par exemple, bah tiens, ma maîtresse en CP. On peut se dire, c'est quand même un événement marquant, même si c'est que ça. Je me rappelle juste de la tête de ma maîtresse en CP, c'est un souvenir. Ça va venir ouvrir un réseau neuronal. Pour moi, réseau neuronal, état du moi, je dirais que c'est la même chose. Un état du moi, c'est un réseau neuronal. On va donc activer, grâce à cette ligne du temps, qui est constituée de un souvenir par année de vie. Alors vous allez tous dire, mais moi je n'ai pas de souvenir à un an, ou à le jour de ma naissance, ou... On n'a pas de souvenir explicite, on n'a pas de souvenir qu'on peut imaginer, qu'on peut voir, mais on a traversé les étapes du développement. Donc c'est aussi une approche qui nécessite qu'on connaisse bien les étapes du développement de l'enfant, qu'on connaisse, qu'on sait comment se constitue un enfant, comment il va réagir. Donc on va faire imaginer les étapes du développement à notre patient jusqu'à arriver au premier souvenir explicite, qui se situe le plus souvent pour la plupart des patients vers l'âge de 3 ans. Et on va faire remonter cette ligne du temps maintes fois, selon les protocoles. Après, je vais vous parler des trois protocoles principaux. On va faire traverser cette ligne du temps. Donc, on parle très peu avec notre patient. On le nourrit de ce récit autobiographique. Je fais tout de suite un lien avec comment se construit un petit humain. Il se construit dans ce récit autobiographique, c'est une co-construction avec la figure parentale. Et en fait, on fait ça. On est dans une co-construction avec notre patient. On va dire, quelque part, on représente une figure parentale. En tout cas, une figure ancrée, solide, protectrice, qui fait que je peux aller dans tous ces endroits en sachant qu'il y a quelqu'un qui est là. On ne va pas mettre de mots, nous, mais on va être dans une attention. Une attention vraiment très très importante à tout ce qui se passe, les micro-signaux, tout ce qui peut se passer, les mimiques. Des fois, ils vont se mettre à parler. Surtout, on n'arrête pas. On n'arrête jamais la ligne du temps. On le fait toujours traverser toute sa vie. Et on fait une pause à la fin. Donc, on traverse cette ligne du temps. Et au fur et à mesure des passages, il n'y a jamais une répétition de la ligne du temps qui ressemble à celle d'avant. Jamais. Ou alors, c'est que là, ça ne fonctionne pas. Le patient qui vous dit, c'est toujours pareil, ça arrive, hein. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer dans les finesses et les difficultés, mais normalement, à chaque répétition, à chaque nouveau passage, il y a de nouvelles choses qui émergent. Pourquoi ? Ça, je pense que Laurence ne me contredira pas. On active des réseaux neuronaux, on met en route l'intégration qui était bloquée jusque-là, qui était figée. J'irais même jusqu'à dire que ces tout petits enfants qui ont vécu dans un climat de carence, de maltraitance, de traumatisme, ils grandissent dans une forme de figement, je pense quand même. C'est très très pauvre. Ils ont vraiment, ils traitent au minimum. Et moi, je leur dis toujours, mais waouh, bravo, quoi, vous êtes là. Et souvent, ils ont un métier. Et puis, ils essayent, bravo. Donc maintenant, on va peut-être essayer d'élargir tout ça. Et donc, cette répétition permet ça. Ne me demandez pas comment. J'imagine, moi, c'est on va allumer très rapidement. Donc, il n'y a pas de suractivation, on ne déborde pas la fenêtre de tolérance. On active et on montre les images. Parce que dans ces images, vous imaginez bien, surtout chez les patients traumatisés complexes, dans cette ligne de temps, du temps, il y a beaucoup de choses difficiles. Donc, on ne s'y apesantit pas. On n'y reste pas. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Si on voit le patient qui commence à partir, on sent qu'il est activé, ça ne va pas très bien, on ne s'arrête surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va l'activer encore plus si on commence à parler. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez besoin de quoi ? Et c'est... Non, au contraire, on va accélérer. On va l'emmener, on va le sortir de ce temps-là, de ce moment-là, pour arriver là. Je ne sais pas, par exemple, quelque chose à 8 ans, je me fais attacher, je pense, j'avais une histoire comme ça, une petite fille qui avait été attachée sur sa chaise par sa maîtresse, hein, et puis avec un sparadrap sur la bouche, enfin vraiment, là. Bon, je ne me suis pas arrêtée. Je l'ai emmenée à 9 ans à quelque chose d'un petit peu mieux, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et à force de repasser, eh bien, ce souvenir-là a moins d'impact et moins perturbant. Il change. Et là, il y a plein d'associations. C'est très proche aussi du modèle psychanalytique. Il y a plein d'associations. Le patient se met à associer. Et nous, on ne dit rien, à part lire les souvenirs. Donc, comment on travaille ? On peut travailler sur un traumatisme précis, on le connaît, ou soit on l'a trouvé. Par exemple, le patient arrive et dit, voilà, moi, dans ma vie, vraiment, chaque fois que je dois faire telle ou telle chose, je n'y arrive pas, j'en ai marre, il faut que ça change. Alors je vais lui demander de penser, ben, quand vous êtes dans cette situation, justement, ben, imaginons, bon, ben, je dois travailler, pour travailler, il faut que je prenne l'avion régulièrement, et chaque fois, c'est vraiment compliqué. Ok, alors imaginez ça, vous êtes là, où on va pas. Pareil, on va pas lui demander de nous décrire et comment et pourquoi, où est-ce que ça se passe, hein. Là, on fait des liens déjà avec ce qui se disait hier. Il nous montre avec la main, ça se passe ici. Ça, c'est signe que cette personne est relativement associée. Ça se passe dans le centre du corps. Ok. À partir de là, on demande à notre client, patient, adulte, d'imaginer la scène, d'imaginer. Il retrouve, on le fait partir, excusez-moi, là je vais plus vite que... Donc, on le connecte avec cette situation et on lui demande de remonter le temps pour voir s'il y a un souvenir qui va émerger. Et là, on fait confiance au système corps-esprit de notre patient. Parce que le souvenir qui peut émerger peut nous sembler n'avoir rien à voir avec la peur de l'avion. Ce n'est pas à nous de juger. Il est arrivé avec ce souvenir-là. On l'accueille, on le prend tel qu'il est. De là, on discute un petit peu du souvenir qui a émergé, qui est en général un souvenir donc perturbant, en général de l'enfance, et on demande au patient d'être à nouveau ce petit garçon ou cette petite fille, disons de 10 ans, d'être dans le souvenir. Ok, vous y êtes, où est-ce que ça se passe dans votre corps ? Il nous le montre. Et de là, on demande... Et c'est nous qui dirigeons. C'est le thérapeute au début est vraiment le chef d'orchestre parce qu'on est en train d'activer un petit peu ce patient. Hein. Donc il ne sait pas. On sait bien quand on est activé, quand on est dans une situation traumatique, on est dans la survie, dans ce qu'il faut juste pour rester vivant. Mais on ne peut pas intégrer. Donc si on refait ça, ça ne sert à rien. Donc c'est nous, le thérapeute, on demande au moi adulte. Allez dans la scène. Prenez votre moi enfant et sortez-le de là. On l'emmène dans ce qu'on va appeler un lieu paisible. Et de là, le thérapeute propose au moi adulte. Nous, on ne s'adresse jamais au moi enfant, au moi plus jeune. C'est toujours le patient qui s'adresse à cette partie-là de lui qui a été traumatisée. Mais on aide l'adulte là. Hein, on lui suggère, parce qu'au début, il ne sait pas quoi dire. Au début, il ne sait vraiment pas, donc on l'aide. Il va dire un certain nombre de choses et surtout, il va dire, maintenant, tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus là-bas. C'est fini, il ne nous croit pas au début, hein, mais nous, on le sait, le thérapeute, il sait ça. C'est important qu'on tienne tout ça, nous. On sait comme un bon parent sait, tiens, tu t'es fait mal, mais moi, je sais que ça, tout à l'heure, quand on aura guéri, ça va aller mieux. On le sait, on ne le dit pas, mais on porte ça. Donc, il va dire ça à son patient, et à son moi enfant, et il va lui dire, maintenant, je vais te montrer que tu as grandi. Et là, c'est nous, on a notre ligne du temps là, que notre client nous a construite. On a tous les souvenirs, un par année de vie. Donc, si ce souvenir était à 10 ans, on va commencer à 11 ans. Souvenez-vous. 12 ans, souvenez-vous. On nomme le souvenir qu'on a sur la feuille. Souvenez-vous, etc., etc., etc. Jusqu'au temps présent. On l'amène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à un souvenir. Là, on lui demande, souvenez-vous de quelque chose que vous avez fait là. Pourquoi pas ce matin ? Moi, je leur dis souvent, votre petit déjeuner ce matin. Quelque chose juste pour arriver, pour vous connecter dans le présent. Et puis après... Il va emmener son moi plus jeune chez lui. Tout ça, c'est imaginairement. Mais vous savez que ce que l'on fait imaginairement, que le cerveau, ce qu'on lui propose de faire imaginairement, il ne fait pas la différence de ce qu'il fait dans la réalité. Donc, ça va participer à convaincre le système corps-esprit de notre patient qu'il n'est plus bloqué dans ce temps du trauma. Donc, à partir de là, il montre la maison, etc. Et on fait ça plein de fois. On repart toujours du « souvenez-vous quand vous avez 10 ans, emmenez votre enfant dans un lieu paisible, quelques paroles réparatrices, voire des actions, et on traverse la ligne du temps ». Ça, ça peut se faire, mais 5, 6, 7, 8 fois dans la séance. C'est des séances qui durent une heure et quart. De là, petit à petit, on va voir le système corps-esprit de notre patient se modifier. Il va associer de plus en plus, ce que je vous disais tout à l'heure. Il va regarder la scène de façon différente. Et à la fin, il va dire, mais le moi enfant, je ne le vois plus. Ça, c'est pas toujours comme ça. Ça peut se manifester autrement, mais c'est le même résultat. Mais pour que vous compreniez, il va vous dire, mais il n'y a plus d'enfant dans la scène. Mais il est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a ce processus, tiens, c'est plus dissocié, c'est réassocié. Et on redémarre sur intégrer ça dans ma vie. Donc ça, c'est le protocole qu'on utilise au départ, très souvent. Après, il y a un protocole qui fonctionne, j'accélère parce que je sens qu'à côté de moi, oh là là, le temps. Donc le protocole des états de stress post-traumatique, quand même, parce qu'on a tous... Donc l'état de stress post-traumatique, c'est quand on prend un trauma récent, plus récent, on va dire jusqu'à 2, 3, 4 ans, et là, on va faire raconter. On demande à la personne de nous raconter. Là, on ne va pas emmener de moi adulte dans la scène, on ne distingue pas un moi plus jeune. On raconte le récit. Il nous raconte. Et nous, on écrit. On écrit. Ta, 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 ta. Et alors là, vous arrivez dans la pièce, et puis il y a le gars avec son couteau, et puis bon, qu'est-ce qui se passe, et puis, au début, ils vont vous raconter très peu de choses, parce qu'ils sont dans le temps du trauma. Donc, ils sont juste enfermés dans cette bulle. Hein. Et puis, on leur a demandé, bien sûr, de nous faire une petite ligne du temps, depuis le temps du trauma jusqu'à aujourd'hui. Et là, on leur demande un souvenir par semaine, puis par mois, enfin pour qu'on ait suffisamment de souvenirs, parce que c'est l'ouverture de ces réseaux neuronaux qui vient activer. Hein. C'est le fait qu'on ouvre, qu'on ferme, ça crée une dynamique, ça active, je pense. Hein, je ne vais pas vous le... Il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui s'y mettent, etc. Et on voit vraiment, mais vraiment en une séance, et ils reviennent après, mais des mois après, et c'est juste, il n'y a plus l'état de stress post-traumatique. Hein, ça c'est. Hein, donc c'est une autre approche. Le MDR fait ça aussi. Enfin voilà, hein, comme on dit, il y a pas mal maintenant. Il commence à y avoir quand même pas mal d'approches thérapeutiques qui permettent de travailler de cette façon. Mais il reste la période de l'attachement. Toute cette période et tous nos patients qui sont multitraumatisés, qui sont dissociés, qui vont vraiment mal. On soulage des traumatismes, mais ils vont quand même encore pas si bien que ça. Et puis vous explorez, bon alors moi j'explore toujours, ça c'est peut-être, hein, j'ai une formation de systémicienne, j'ai travaillé sur le lien mère-nourrisson, donc je ne commence jamais une séance, une rencontre avec un patient sans faire le génogramme, c'est-à-dire que je fais déjà une ligne du temps, parce que le nombre de fois où les gens, en commençant ce génogramme, les petits carrés, les petits ronds, tiens les grands-parents, les arrière-grands-parents qui disent « Ah mais j'avais jamais vu ça comme ça », déjà il y a un tissage, déjà on a commencé à ouvrir des réseaux neuronaux, à mettre des choses en place, et pour... travailler sur cet attachement pour mettre en place un attachement de type sécure, acquis. Hein, c'est acquis, c'est important, hein, c'est pas celui qui se crée. Il a pas été mis en place au départ, mais waouh, le cerveau, hein, il peut se réorganiser tout le temps, donc on peut faire quelque chose. Et là, on va montrer à notre patient, et là, ça devient une thérapie. C'est quelque chose qui peut prendre 2 ans, 3 ans. Il nous faut du temps. Il faut 3 ans pour qu'un enfant, quand même, mette en place un certain nombre de choses pour pouvoir après absorber les événements sans avoir toujours une figure parentale à côté qui vient traduire, qui vient mettre des mots. Enfin, moi, je pense à Winnicott, je pense à Bion. Enfin, hein, il faut un temps. Donc là, c'est ce que l'on va faire. On va être cette figure parentale et on va nourrir, on va donner à notre patient sa ligne du temps. Imaginez votre naissance. Vraiment, imaginez quand vous arrivez au monde, votre petite tête qui émerge, votre petit corps qui arrive. Et puis, on va accueillir. Là, en général, c'est le thérapeute qui accueille parce que notre patient, il ne sait pas accueillir un nouveau-né. Il ne sait pas. Donc c'est nous, donc le thérapeute, il doit avoir vraiment fait son travail d'ancrage, être sûr que lui aussi, que lui, il va pouvoir accueillir. Parce que s'il ne sait pas accueillir le nouveau-né, ça ne va pas forcément bien fonctionner. Donc c'est vraiment important ça. Et à partir de là, au fil des séances, on ne fait pas toujours la ligne du temps. Des fois, moi j'ai des séances où on va aborder d'autres choses, on fait des pauses, mais il y a ce fil conducteur qui est là et on traverse la ligne du temps depuis la naissance jusqu'au temps présent, jusqu'à ce que notre patient, on lui redonne la responsabilité de sa vie, nous dise, et souvent c'est eux qui nous le disent, mais je voudrais bien le prendre, mon moi nouveau-né maintenant. Mais c'est moi, et ils vont le prendre, et vous allez les voir mimer, vraiment être dans une relation contenante, tendre, d'attention. Là, j'aime bien, c'était Ferenczi, je crois qu'il disait ça, de cet amour inconditionnel dont tout petit être qui arrive au monde a besoin. Et je trouve que dans nos sociétés aujourd'hui, On l'a un peu oublié quand même. Hein. Et donc cette attention inconditionnelle. Et petit à petit, il va pouvoir prendre le relais. On n'est pas toujours là pour le nourrir. C'est lui qui va pouvoir après se nourrir et mettre en place un attachement de type sécure acquis. Et je crois que je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup Catherine.
Pas fini, hein. Elle va encore parler. Mais c'est... Je crois que ce qui est très intéressant dans cette ligne du temps, c'est que la personne va s'approprier son passé, son présent, son futur. Il y a quelque chose qui... On ne peut pas se construire autrement qu'en ayant un récit autobiographique cohérent. C'est comme un remaillage, quoi. Comme si les gens qui sont traumatisés ont des trous. Il y a des vides.
Exactement.
Qui sont... Et là, c'est... D'ailleurs, tu montres des très jolis dessins quand tu fais la formation. On voit les schémas, des réseaux neuronaux isolés. Il y a plein de trous, il n'y a pas de lien entre les réseaux neuronaux. Et après traitement, plein de liens qui se font, un remaillage du réseau qui se fait. Et c'est ça qui va donner le sentiment de contenant et de sécurité à la personne.
Après traitement ou quand on a eu... Quand on a grandi, qu'on a eu notre toute première enfance dans un milieu suffisamment, là, enfin, je dis toujours suffisamment, on n'est pas magicien, on n'est pas, il y a les parents parfaits, ça n'existe pas. Winnicott va bien quand il utilise ce terme vraiment de suffisamment bon. Et donc, normalement, quand on a reçu ce modèle suffisamment bon, on est quand même capable de traiter ce qui nous arrive dans la vie et on est aussi capable de se trouver dans des situations qui sont bonnes pour nous. Parce que le cerveau, il va quand même toujours vers ce qui est le meilleur pour lui. Ce qu'il a fait hein, dans ses mécanismes de survie, il ne pouvait pas faire autrement, donc il est quand même dans ce qu'il y a de meilleur, sauf qu'il n'a pas compris qu'il n'avait plus besoin de ces mécanismes-là.
Alors moi je dirais que dans ce modèle, je retiens trois choses importantes. Cette notion de ligne du temps, qui permet de faire des liens entre le passé, présent, futur, d'intégrer des choses au niveau des... Mais cette intégration, la deuxième chose que je retiens, c'est que cette intégration, elle se fait via ce qu'on appelle en PNL le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, gustatif, nos cinq sens. C'est-à-dire que la mémoire, elle est encodée via nos cinq sens. Il n'y a pas des mots écrits dans notre cerveau.
Pas tout de suite, parce qu'après...
Voilà, donc on encode nos souvenirs grâce à nos cinq sens. C'est d'ailleurs Lacan qui disait, finalement, notre premier traumatisme, c'est le traumatisme du langage. Parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur toute la réalité. On n'y arrive jamais, finalement. Et il parlait même de traumatisme. Ça m'avait fait beaucoup rire.
Est-ce bon. Qu'il va bien avec les trous?
Voilà, ça va bien avec les trous. Donc, la ligne du temps, l'intégration des souvenirs via ce fameux VACOG, et pour l'avoir expérimenté personnellement, dans la liste des souvenirs que j'avais faite, il y a des choses qui me sont revenues longtemps après, 6 mois, 1 an après, avec beaucoup plus de détails. Par exemple, le jardin de mes grands-parents, tout d'un coup, je voyais la couleur des cerises et le goût des cerises dans le cerisier. Je sentais le goût des cerises. Il y avait plein de choses que j'avais complètement occultées. Et il y avait des tas de choses. C'était plus lumineux dans certains souvenirs. C'était moins gris. Et donc, du coup, j'ai compris que... Bon, il n'y avait rien dans le contenu qui avait changé. Mais des associations, des couleurs, des colorations du souvenir qui étaient différentes. Et certainement, en PNL, on parle d'une sous-modalité critique. C'est-à-dire le changement d'une sous-modalité, par exemple la couleur, la lumière dans un souvenir... fait basculer le sens. On attribue un sens, alors il doit y avoir une histoire d'amygdale, là, Laurence nous expliquera, ce sera mieux, mais la coloration émotionnelle n'est plus la même, et pof, elle donne l'accès à l'hippocampe qui peut, du coup, intégrer la mémoire autrement. Donc, ça se passe vraiment au niveau sensoriel. Et puis, la troisième chose que je retiens dans ce modèle et que je trouve vraiment pertinent, c'est l'introduction du tiers. Le moi adulte que l'on fait entrer dans la scène traumatique, avec le soutien du thérapeute qui apporte un étayage à ce moment-là, un étayage du moi, parce que le moi adulte peut être très fragile aussi, mais le thérapeute va distiller des ressources d'adulte à ce moi adulte qui va venir en soutien de son moi plus jeune. Et là, il y a dans cette triangulaire entre l'agresseur, par exemple, le parent ou l'enfant et le moi adulte, qui vient apporter un protecteur. Alors c'est là où François nous parlera dans son modèle des protecteurs, qui, dans un tout autre mécanisme, d'une toute autre façon d'appréhender les choses, mais finalement ça revient un peu au même. L'enfant, en tout cas dans le modèle ICV, se sent soutenu. Souvent, quand il arrive dans son lieu paisible dont tu parles, le lieu sûr que l'on a créé imaginairement pour qu'il reprenne ses forces, souvent, on voit nos patients dire « Ah oui, je me sens enfin compris. » On a fait juste, le thérapeute a parlé pour le compte du moi adulte à l'enfant, ce qu'un parent protecteur aurait dû faire au moment du trauma et n'a pas pu faire. Donc, il y a une reconstruction du souvenir et du récit autobiographique. Voilà. Donc, tu as apporté des notions, ligne de temps, intégration du temps, passé, présent, futur. Tu as apporté la notion du tiers dans le modèle, avec le moi adulte, celui qui est supposé avoir des ressources que n'avait pas l'enfant, et tu as apporté la notion de sensoriel. Donc, François, comment toi, tu vas aborder tout ça? Je te laisse présenter ton modèle avec tes mots à toi, et puis on terminera la table ronde pour voir où sont les convergences, éventuellement les divergences, et notamment sur les concepts. Tu as très peu parlé du self ou de l'être ou du soi, tu parles d'état du moi, tu parles du moi, qu'est-ce que le moi finalement, et toi tu vas parler d'autre chose. On voit finalement qu'à travers le temps, depuis Freud jusqu'à Jung, ils cherchent tous à parler de partie de soi, le moi, le ça, le surmoi, les complexes, l'animal animus, en psychosynthèse c'est autre chose, enfin bref, en analyse transactionnelle n'en parlons pas, donc en PNL on parle des parties, bref, c'est quoi tout ça? Alors toi tu parles de parties justement.
Oui, alors effectivement, le modèle IFS parle aussi de tout ça. Il repose sur deux jambes, la jambe de la multiplicité et la jambe de la pleine conscience du self, de qui je suis vraiment profondément, le soi. Comment, et ça c'est pas nouveau, ce qui est vraiment original, c'est la façon dont Schwartz a développé une méthodologie pour articuler ces deux dimensions au service d'une relation thérapeutique et de la guérison de son patient. Comment ça s'est fait de façon simple? Schwartz n'est pas un théoricien, c'est un clinicien qui a essayé simplement, avec les moyens du bord, d'aider ses patientes. Et quand il s'est rendu compte que ses patientes souffrant de troubles du comportement alimentaire n'allaient pas vraiment mieux, en tout cas pas suffisamment bien, malgré l'application de ces techniques de thérapie systémique qu'il avait apprises, il s'est posé des questions et il s'est dit « il faut que je m'y prenne autrement ». Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là profondément? Il a simplement laissé son cœur parler et écouter. Il ne l'aurait pas dit comme ça, mais c'est vraiment ça qu'il sait. Il a laissé son, on verra plus tard, son self, être le premier intervenant dans la relation thérapeutique. Et de quoi il s'est rendu compte? Il s'est rendu compte, quand il écoutait vraiment, en mettant de côté toutes ses connaissances et ses théoriques et pratiques, il s'est rendu compte que ses patientes parlaient naturellement de parties d'elles. Elles disaient, certaines, j'ai une partie de moi qui me pousse à manger, c'est irrépressible. Et puis après, j'ai une partie de moi, une autre, c'est pas la même, c'est vraiment différent, qui me juge et qui me prend pour complètement nul d'avoir fait ça. Et puis pour finir, je me sens vraiment très nul, j'ai honte. Et puis le lendemain, c'est pire. J'ai encore plus envie, etc. Et ces personnes décrivaient en elles-mêmes des parties d'elles comme des acteurs du théâtre intérieur qui orchestraient le drame de leur vie, en l'occurrence des troubles du comportement alimentaire. Donc il s'est intéressé à ça et il a écouté et il est depuis son cœur, depuis son self, et il a quand même appliqué quelques techniques de mise à distance pour favoriser la communication entre les parties. Là, c'était un systémicien, il s'est dit, ça ressemble à une famille, ces parties qui parlent à l'intérieur, évidemment elles font la guerre, elles ne communiquent pas bien entre elles, elles n'arrivent pas à se faire comprendre. Et si peut-être elles arrivaient à se comprendre entre elles, qu'est-ce que ça donnerait? Il ne savait pas encore à l'époque que le self c'était ça qui allait, c'était la clé. Mais il a commencé à demander à ses parties de se distancer à l'intérieur pour favoriser la communication, comme on fait dans une famille ou extérieure où les membres sont tellement en colère que ça va être que par la mise à distance qu'on va pouvoir accéder à un état qui va permettre un début éventuel de résolution. Et en faisant ce travail intérieur de séparation des parties, il s'est rendu compte, il a écouté de nouveau, et il s'est rendu compte que ses clientes, il appelait les clientes, lui, parlait de tout d'un coup, disait « mais c'est plus du tout à fait pareil. Tout à l'heure, j'avais cette partie, il y avait cette partie en moi qui voulait absolument manger. Qu'est-ce que je ressentais tout à l'heure? C'était de la colère contre elle et du jugement. Vous m'avez demandé, alors je retranscris évidemment, c'est pas ce qu'elle disait, mais je fais court. Vous m'avez demandé de mettre cette partie juge de côté. Et maintenant, quand j'arrive à avoir cette autorisation de la partie juge de côté, que je regarde maintenant cette partie qui mange et qui me force à manger à l'excès, Eh bien, tout d'un coup, je me rends compte à l'intérieur que c'est plus pareil. Mon regard change. Je deviens curieux et voire même touché par tout ce que cette partie fait pour moi. Parce que je me rends compte qu'elle a une intention, qu'elle essaie de faire quelque chose pour moi et qu'en fait, je n'arrive pas à la comprendre. Évidemment, parce que l'autre, le juge, était entre les deux. Donc, dans cette expérience-là, Schwartz, en tant que clinicien, s'est rendu compte qu'il y avait un vrai changement. Parce que quand la personne était dans cet état, que l'on va appeler le self, mais qui est un état, ce n'est pas un concept, c'est ça, c'est un point important de mon message, c'est un état physiologique clinique de conscience ouverte sans jugement, qui n'est pas dû à des efforts qu'on fait, mais simplement à la confiance que les parties qui interfèrent nous font de se mettre de côté, dans cet état, la partie cible, la partie qui pousse à consommer une alimentation, commence à raconter son histoire. Parce qu'elle se sent entendue, enfin, par quelqu'un qui ne la juge pas à l'intérieur. Et elle va commencer à expliquer qu'elle a peur, et qu'elle a peur de quoi ? Elle a peur d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Elle a peur d'arrêter de faire ce qu'elle fait, parce que si elle arrête de faire ce qu'elle fait, il va se passer quelque chose de bien plus grave, qui va être l'activation de ce que l'on va appeler des exilés, les parties blessées. Donc, voilà, Schwartz, il s'est rendu compte de ça. Il s'est rendu compte qu'en fait, à l'intérieur, il y a des parties, et que ces parties, elles ne sont pas toutes seules, elles ne sont pas la personne elle-même, elles sont des parties de la personne qui a une instance qui fait comme une matrice, qui fait comme le lien entre toutes ces parties, qui est le soi, et qu'à partir de ce... que si on travaille depuis ce soi, eh bien, il y a des modifications rapides qui peuvent intervenir parce que les parties se sentent en sécurité et peuvent parler enfin vraiment pour elles-mêmes. Donc ça, c'est un point important. Donc, il va développer ce modèle-là, et je vais donc développer un petit peu, j'ai un peu de temps pour vous expliquer les choses qui me tiennent à cœur. Donc, prenons le modèle IFS, des parties, on va dire que les parties, c'est parce que vous voyez en bleu clair, et puis le self, c'est la matrice, c'est ce qui n'est pas les parties. C'est l'expérience qu'on fait quand nos parties se séparent de nous. Se décolle. C'est vraiment l'image des nuages. Le ciel est couvert, plein, il n'y a pas un seul, on ne voit pas du tout le ciel bleu, et tout d'un coup, il y a une trouée, les nuages se percent, et on voit le ciel bleu et on voit le soleil. Donc les parties peuvent plus ou moins masquer le self. Et on va voir que c'est ce qui se passe, en fait. Que c'est ce qui se passe quand le traumatisme intervient. Donc je fais court, mais on va, puisqu'aujourd'hui on parle du traumatisme, je vais vous parler de ça, parce qu'en fait c'est ça qui est important. Dans l'état ici, le self qui est un état, est-ce qu'on l'a jamais, probablement pas, mais imaginons un état idéal, les parties sont en relation de confiance entre elles avec le self, et le self a une fonction de guidance pour le système intérieur, et prend en charge les parties, s'en occupe, et leur donne, dans la vie de la personne, une direction, c'est le guide intérieur, hein, le self-leadership dont on va parler tout à l'heure. Donc le self, c'est le guide intérieur. Évidemment, ce n'est jamais rarement comme ça que ça se passe, et qu'on vit des expériences contraignantes ou traumatiques, voire très traumatiques, et on va peut-être tout à l'heure parler de comment l'IFS voit le trauma tel qu'on en a parlé depuis hier, en tout cas pour parler de façon plus générale, le traumatisme est une expérience qui va générer et rejoindre les neurosciences chez une partie de l'enfant, une qui va s'exposer à la situation. Par exemple, le petit garçon qui fait l'expérience d'être jugé par son père parce qu'il a des mauvaises notes et que tant qu'il n'aura pas des bonnes notes, eh bien son père ne le reconnaîtra pas. Cet enfant, cette partie de l'enfant exposée à ça, développe une série de réactions émotionnelles et cognitives en lien avec cela. Et qui, dans le cas du traumatisme, ce qui va se développer dans la suite, s'évacue ou pas sur le moment, peut s'évacuer, et quand ça ne s'évacue pas, ça constitue ce que nous allons appeler en IFS, si ça marche bien, ça, un fardeau ici. Ça, c'est un point très important. Un fardeau auquel la partie s'identifie, c'est-à-dire le petit garçon, se prend pour ce nul vu par le père et endosse lui-même, s'identifie à son fardeau. Je suis un nul, je ne vaux rien, je suis en colère contre ça et je ne serai jamais aimé par mon papa. D'accord ? Ça a un impact que ça modifie. Ça a un impact que ça modifie de façon systémique les dynamiques, ce qui se passe à l'intérieur de la personne à ce moment-là. Parce que cette partie qui s'identifie à son fardeau est vue par le reste du système comme menaçant, comme effectivement tu es un nul. Et si tu es nul, eh bien, ça va perturber, parce que si tu es nul, dans le fond, eh bien, tu ne vas pas pouvoir faire un certain nombre de choses dans la vie, etc., etc. Ça va être comme un boulet dans la vie de la personne. Et d'autres parties du système qui ne sont pas directement exposées au traumatisme vont se charger de faire quelque chose qui est sur un mode de survie, c'est-à-dire de se charger elles aussi de fardeaux, qui sont leurs rôles forcés, c'est-à-dire des rôles, des actions qui vont intervenir dans la vie de la personne de façon très concrète, comme se jeter sur l'alimentation de façon compulsive, pour passer non plus d'un système relationnel qu'on avait auparavant, mais d'un système de rapport contraint avec l'exilé, avec ce qu'on va appeler l'exilé, parce que ces parties qu'on va appeler protectrices deviennent protectrices du fait de leurs fardeaux qui sont leurs rôles, et vont établir avec, entre elles souvent, et aussi, surtout vis-à-vis de l'exilé, des, non pas des relations, mais des rapports tendus, on va appeler ça des polarisations, qui ne sont pas des relations, mais qui sont des rapports avec la partie qui aboutissent à son exil, on va dire, en IFS, plus ou moins profondément dans l'inconscient, grâce à ce qui va se développer, qu'on va appeler, nous, une barrière de protection. Il fait que dans un système traumatisé, plus ou moins, on aura toujours cette configuration qu'on va retrouver dans le travail clinique de partie protectrice et de partie protégée. Donc, est-ce que ça va, ça? Ok. Donc, et on, pour faire très court, je ne vais pas présenter tout le modèle ici, on a deux types de parties protectrices, les parties qui évitent de se sentir mal, qui évitent d'aller vers ça. Ce sont des parties anticipatrices qui nous évitent d'aller vers le traumatisme, donc de nous sentir mal. Donc des parties qui contrôlent le système, qui contrôlent la vie, qui anticipent, qui prennent toute une série de mesures pour éviter que l'exilé soit activé. Par exemple, une partie qui va m'empêcher de parler en public, parce que si je me sens nul, ça va activer cette partie qui se sent nul et qui n'a rien à dire. Donc l'autocritique est une partie manager, on va appeler manager, qui est très efficace pour, effectivement, éviter de me mettre en situation que cet exilé, qui va peut-être, s'il n'est pas guéri, va s'activer ici quand je vous parle et va avoir tendance à perturber ma communication et me mettre dans une situation difficile. Donc mon manager, mon autocritique, va intervenir pour m'empêcher d'être là, d'arriver là, d'accepter l'invitation. Et puis quand ces mécanismes d'anticipation ne marchent pas, on a des mécanismes d'extinction, c'est-à-dire que l'exilé est activé de façon incontrôlée. Là, on a un système qu'on appelle le système de pompiers, ça paraît un peu simpliste, mais en pratique, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire des systèmes de rétroactifs qui interviennent une fois que le feu des émotions est enclenché pour éteindre le feu à tout prix. Donc on en a parlé hier. Éteindre le feu à tout prix, y compris à ce qu'on soit exposé à l'abuseur, y compris par l'alcool, par atteindre la santé, par payer beaucoup d'argent, par faire plein de choses. C'est tout le domaine des addictions, c'est tout le domaine de la compulsion, c'est-à-dire ce sont des parties qui utilisent ces rôles-là, ces mécanismes, pour, à tout prix, immédiatement, parce que je le mérite bien, arrêter de souffrir. D'accord ? Bon, encore quelques minutes pour vous demander comment on travaille avec ça. Eh bien, on travaille... En IFS, le thérapeute primaire, c'est le self. Ça, c'est un point important. C'est le self. C'est le self du client. Parce que nous avons appris, par notre travail clinique, à nous rendre compte, tous les thérapeutes IFS que nous sommes, que cet état-là est toujours chez le patient. Cet état-là, quel qu'était le traumatisme, aussi profond, aussi chronique, cette flamme-là, cette flamme de conscience est toujours présent. On pourrait reprendre un peu de neuroimagerie, Laurence en a parlé, je pourrais revenir là-dessus, si c'est... parce qu'il y a des corrélats neurobiologiques à ça, c'est toujours présent. Et si ce n'est pas présent, parce que le lobe frontal, par exemple, est éteint, comme Laurence vous l'a montré, eh bien on peut, par la relation thérapeutique, amener cette présence dans la relation thérapeutique, par ces deux cerveaux qui se répondent, et les neurones miroirs, à ce système blessé. Donc il y a toujours une possibilité d'accéder, avec cette présence de self, au système blessé. Mais tant que c'est possible, on utilise le self du client comme thérapeute primaire, et pour l'aider, le thérapeute secondaire, c'est le thérapeute IFS, intervient pour établir une relation thérapeutique qui passe essentiellement par, donc, je pourrais en parler de nos ressources un peu plus tard, je ne vais pas compliquer, la relation thérapeutique qui est fondamentale, c'est cette présence à l'autre qui permet à l'autre de faire plus l'expérience à l'intérieur lui-même de la présence et du self lui-même. Et ce self intervient dans un premier temps pour obtenir l'autorisation des parties protectrices d'aller s'occuper de l'exilé dans un deuxième temps. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est pas juste être gentil avec les parties protectrices, il y a aussi ça. c'est respecter leur rôle. À l'intérieur, ça a une dimension émotionnelle et relationnelle de tout d'un coup être présent à cette partie qui fait tellement de choses graves, qui force à manger de façon tellement extrême, avec tellement de conséquences, et que cette partie fasse l'expérience d'être reconnue et acceptée pour ce qu'elle fait, non pas jugée, c'est fondamental et c'est très important. Mais plus profondément, cette phase-là, c'est une phase qui a à voir avec la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire qu'en travaillant avec nos protecteurs, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille jusqu'à ce que ces parties, en fait, ouvrent l'espace pour que le self arrive dans des conditions de sécurité, vers l'exilé, pour que, en fait, la fenêtre de tolérance puisse s'ouvrir. Parce que ce qu'on va voir dans le trauma, et j'anticipe un petit peu, c'est que ces protecteurs-là, dans le trauma, pour nous, dans l'IFS, le trauma, c'est toujours ça, sauf que c'est pire. C'est-à-dire que dans le trauma, là, ici, vous avez 50 exilés, la mémoire traumatique est éclatée, vous avez un nombre très important d'exilés, vous avez énormément les parties protectrices sont surchargées de rôles, ils sont dans un fonctionnement très important, souvent des pompiers qui dissocient, la dissociation vue en IFS, ce sont des parties qui dissocient, qui coupent, qui anesthésient, qui coupent la relation. Ces parties-là sont très loin de l'exilé, l'exilé est très enfoncé, donc ces parties-là n'ont même plus conscience de ce qu'elles protègent, premier point, et deuxièmement, elles n'ont même pas conscience qu'il y a un self. Elles se disent, et on va voir pourquoi tout à l'heure dans la scène, pourquoi, enfin, ces parties ne font plus l'expérience et se sont décidées à ne plus jamais faire confiance à quiconque. Ça, c'est un point très important. Donc, quand on a réussi, et on va en reparler tout à l'heure, à obtenir l'autorisation des protecteurs d'aller vers l'exilé, alors on va établir une relation entre la personne et son exilé. Et là, c'est très proche de ce que vient de dire Catherine Clément. C'est être présent à, entendre l'histoire, que l'exilé se montre à la personne elle-même, à son cœur elle-même, pour être complètement comprise, puis, exactement comme ce que tu fais, c'est-à-dire le sortir du passé, sortir de la scène traumatique, avec le self, donc nous on ne va pas parler du moi adulte, c'est ça des différences sur lesquelles on peut revenir, mais le self, c'est-à-dire la personne complète dans sa conscience, dans son cœur, dans sa compassion, engagée dans une relation avec l'exilé, c'est très important, engagée dans une relation avec l'exilé. Donc la sortie, on appelle ça retrieval en anglais, la sortie de la scène traumatique. Et enfin, ultimement, c'est le déchargement du fardeau qui a à voir avec ce dont je voudrais parler, c'est-à-dire la reconsolidation mnésique, c'est-à-dire une capacité cérébrale que la neuroplasticité donne au cerveau de se libérer des mémoires émotionnelles, de la charge émotionnelle des souvenirs traumatiques. Donc ça, on pourra en parler un peu tout à l'heure. Donc nous, on va vers ça, on va vers le déchargement du fardeau et ultimement la réintégration de la guérison dans le système au travers... Alors on demande aux protecteurs de revenir et on leur dit, maintenant qu'on a pu s'occuper de l'exilé comme ça, acceptez-vous d'arrêter de vous décharger de votre rôle forcé. Donc c'est un modèle relationnel qui est basé sur la confiance, qui utilise les capacités du cerveau, sa neuroplasticité pour obtenir le déchargement et qui intègre le déchargement de l'exilé dans le système protecteur en invitant le système protecteur d'abord à lui demander l'autorisation de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prend en compte, et c'est très important parce que ça permet à la guérison, après qu'elle ait lieu dans le déchargement de l'exilé, d'être intégrée dans la vie de la personne parce que les parties qui faisaient plein de choses extrêmes, maintenant peuvent envisager, avec un sens qu'elles se donnent, d'arrêter de le faire ou de le faire moins. Et de faire confiance, ce qu'on appelle self-leadership, ce qu'on pourrait appeler aussi l'autonomie. L'autonomie, c'est ça, c'est-à-dire la remontée, cette descente avec les protecteurs, l'exilé, la remontée par l'intégration avec les systèmes protecteurs pour amener ces personnes à reconnaître, ces parties à reconnaître dans le self ce qu'elles avaient oublié, c'est-à-dire ce self-là, cette personne-là avec son cœur et sa vision, c'est-à-dire cette représentation dans cette ligne temporelle, ce self qui a une vision de son passé et de l'avenir, qui est dans cette ligne de temps, il est digne de confiance et que ça vaut le coup de travailler avec lui plutôt que de faire comme s'il n'était pas là et de se débrouiller dans un système de survie. Donc voilà en quelques mots le modèle IFS.
Merci François. Est-ce que tu peux juste préciser comment se fait le déchargement émotionnel ?
Alors le déchargement pour nous n'est pas uniquement émotionnel, c'est-à-dire dans la phase, ça c'est un point important. Je vais d'ailleurs peut-être profiter de parler de ça maintenant, c'est-à-dire la question de la reconsolidation mnésique. Il y a un livre que je vous invite à lire, qui est en anglais malheureusement, qui s'appelle Unlocking the Emotional Brain. Ça reprend toute la littérature qui est sortie autour de la reconsolidation mnésique ça s'est développée dans le milieu des années 2000, vers 2004-2006. Ecker, et c'est le leader de ça, qui montre comment le cerveau, contrairement à ce qu'on croyait avant, peut se libérer des charges émotionnelles traumatiques. Ça se montre chez l'animal et chez l'adulte. Et comment les nouvelles thérapies de troisième vague, qui sont citées, l'IFS est cité, permet d'accéder à cette situation. Et comment est-ce qu'on arrive à cette situation? Comment est-ce que le cerveau peut désapprendre, en fait, grâce à cette capacité de la neuroplasticité de déverrouiller les synapses pour laisser partir les souvenirs traumatiques, enfin la mémoire traumatique. Et donc, il y a deux choses. C'est l'activation du souvenir, donc ça c'est un point important. Activer le souvenir, ça veut dire, et on le fait tous, c'est-à-dire, on l'a vu ce matin, activer le souvenir, que la personne se mette en situation d'être dans sécurité, donc dans la fenêtre de régulation émotionnelle, en contact avec son émotion, nous on va dire son exilé. Et donc on va le faire ça dans une relation avec le self, avec les protecteurs qui sont mis de côté pour avoir une sécurité, pour que ça se passe en sécurité. Et donc l'activation du souvenir, ça c'est une des conditions à la reconsolidation mnésique. L'autre condition, c'est ce qu'on appelle le mismatch, que je n'ai pas traduit en français parce que ce serait incomplet. Mismatch, ça veut dire que ça ne suffit pas d'activer le souvenir, ce qui est important, c'est d'amener une autre information pour que le souvenir puisse partir. C'est ça qui est très important à comprendre dans ce concept de reconsolidation mnésique. Donc, la mémoire devient labile dans le cerveau, les synapses commencent à se déverrouiller, et si on amène une autre information, alors en IFS ça va être le self, ça va être l'information, la présence relationnelle du self qui indique je t'aime, tu es présent, j'ai un avenir pour toi, je peux m'occuper de toi, c'est toutes ces informations non verbales qui sont véhiculées, on pourra le voir tout à l'heure dans le cerveau, dans les relations entre le lobe préfrontal et l'amygdale, eh bien le souvenir émotionnel, l'émotion part. Donc c'est réversible. C'est réversible. En IFS, il y a deux sous-aspects, c'est-à-dire dans la première partie du travail avec l'exilé, le self est présent et l'exilé raconte son histoire, donc là il peut y avoir un élément émotionnel. Et ce qui est très surprenant, c'est quand il y a des colères souvent, eh bien les colères, nous en IFS, on invite les gens à manifester la colère. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'exilé qui est très en colère, il est très en colère en fait de quoi? Surtout, évidemment ce qui lui est arrivé, mais surtout de ne pas être entendu. Et quand il fait l'expérience à l'intérieur d'être en présence de quelqu'un qui l'entend, eh bien, la colère se régule toute seule. L'exilé n'a pas tellement besoin que la personne hurle, crie ou passe à l'acte. Ce n'est pas ça qui se passe du tout. Du fait d'être entendu enfin dans ce qui s'est passé, la colère baisse et l'exilé montre d'autres choses. Donc, l'aspect émotionnel dont on se rend compte en IFS est important. C'est une étape et pas tant que ça, en fait, dans le processus de guérison. Et surtout, ce qui se passe, c'est que ça n'est pas pour nous le déchargement du fardeau. C'est une préparatoire au déchargement du fardeau qui est une expérience. Et ça, il faut vous voir pour comprendre qu'il y a une expérience beaucoup plus, disons, corporelle, physiologique. On va avoir, par exemple, des expériences de fardeau. Un exilé, hier, j'ai travaillé deux jours avec une personne qui avait un exilé. L'enfant, c'était un enfant qui se sentait incompris, qui rentrait le soir à la maison, personne n'était là, il était comme plombé. Et quand, donc il y a eu la période dans le travail, l'enfant a montré au self comment c'était, les émotions de tristesse, d'abandon, etc. Puis quand après j'ai demandé, mais mon demande à cette partie de te montrer son fardeau, c'était très concret. Et il a montré qu'il y avait comme de la terre, de la boue sur les jambes. Et la personne a fait une expérience physique de ce fardeau. Et c'est ça qu'on a traité. La phase ultime, c'est ça. Ce n'est pas les émotions qui étaient montrées avant, mais c'est ce fardeau. Sur le plan neurophysiologique et biologique, je ne sais pas à quoi ça correspond, ce serait passionnant d'arriver à comprendre ce que c'est. En tout cas, c'est plus que des émotions, c'est comme une gangue, nous, métaphoriquement, on dit que c'est une gangue, c'est un poison, c'est un encapsule, la partie. En tout cas, dans l'expérience, c'est quelque chose qui se dégage, qui peut se nettoyer comme un nettoyage psychique. On utilise l'imagerie mentale pour permettre au self, à l'énergie du self, de dégager le fardeau et de permettre à cette partie d'être vue maintenant pour qui elle est. Et ça, c'est un grand. Ça change beaucoup dans le système, on pourra en parler après.
Oui, ce que j'entends dans cette description, c'est qu'il y a une phase de désidentification des affects, que tu nommes partie. Mais alors ça me fait penser beaucoup quand même au modèle bouddhiste. On a écouté quelqu'un qui nous a parlé de la mindfulness hier soir et qui nous faisait expérimenter, d'ailleurs, observer ce qui se passe en vous et sans jugement, vous n'êtes pas ça, etc. Bon. Alors, comment, donc, on parle de désidentification, mais qu'est-ce qui permet au sujet de se vivre identique à lui-même, c'est-à-dire un processus d'identification à soi? Parce qu'il y a ce décollage, ouais. Mais finalement, et ça m'amène à la question, qu'est-ce que l'être? Puisque tu parles de self, pourquoi pas parler d'être?
On pourrait parler d'être.
Ou de soi.
On pourrait parler de soi. C'est une...
Et alors, quelle différence entre le soi, l'être, et le moi?
Ah, ça, c'est une autre question, mais enfin, on pourra en parler, mais il y a deux questions.
Oui.
En tout cas, l'approche IFS, c'est l'accès au self, au soi, par la libération des contraintes. C'est ça, sa définition. C'est-à-dire que c'est la libération des fardeaux, des parties qui se détendent et qui font que par contre-coup, je fais l'expérience du self. Voilà. Donc comment on s'y prend? Eh bien, c'est pas forcément évident à faire, parce que quand les parties sont tellement amalgamées au self parce qu'elles sont chargées de peur et de souffrance, eh bien, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut un thérapeute. Donc, et ce thérapeute va simplement par sa présence, simplement, c'est pas si simple que ça, mais ça met en jeu des capacités cérébrales dont Laurence nous a parlé hier, à travers les neurones miroirs et ce qui se passe au niveau des cortex préfrontaux. Ça permet à une partie de faire l'expérience d'une présence et de commencer à se détendre. Et quand elle va se détendre, la personne à l'intérieur va dire « Ah ben, il y a plus d'espace, cette partie se sent entendue de vous, elle se détend, elle se décolle un peu, elle se sent comprise, et on va commencer ce travail d'aller à l'intérieur pour augmenter le plus possible ce décollement. » Donc ça, c'est la première phase, c'est d'établir une relation intérieure entre la personne, son self, et la partie, jusqu'au déchargement. Donc ça, c'est quelque chose qui se prolonge, et la phase finale, c'est quand les parties sont déchargées, et qu'elles sont complètement libérées d'avoir une relation complète avec le self. Donc ça, c'est quelque chose qui est graduel. On peut déjà commencer à... On peut déjà,
c'est pas prévu de vous mettre en relaxation.
En relaxation, mais on peut le faire. Donc, par exemple, si tu viens me voir et tu as une partie alcoolique, je vais te dire, tu en as une en plus, bon. Michel, ce n'est pas tout toi qui a une partie, c'est pas toi qui a alcoolique, c'est une partie de toi. Est-ce que tu peux aller à l'intérieur, trouver comment physiquement elle s'active en toi? Donc tu vas aller à l'intérieur et tu vas faire cette expérience, comme on a fait hier un peu, d'aller à l'intérieur et de trouver dans ton corps cette partie qui va se manifester par une compulsion, mettons, peu importe, dans le thorax, etc. Et donc tu vas aller par ta conscience, rentrer en relation avec, et c'est ça qui va permettre le début de la désidentification, le début.
J'entends bien, et en PNL on parle notamment d'intention positive de la partie, c'est-à-dire la partie joue un rôle, ce que tu as appelé les protecteurs par exemple, d'évitement ou pour éteindre le feu, mais ma question porte plutôt sur ce postulat de base qui consiste à dire on a un être plein de compassion, zen, parfait, plein d'amour, et puis des parties de soi que Schwartz appelle des personnes, c'est pas rien d'employer ce mot quand même. On a des personnes à l'intérieur de notre personne et qui dit, ben voilà, il y a un être quelque part, et puis il y a des parties, et il faut que, et tout ça c'est très complexe, et il faut que tout ça soit bien managé, et ça ira mieux. Mais ce qui me pose, bon, c'est pas que ça me pose problème, parce que j'ai testé les deux modèles et je vois bien leur efficacité à chacun, mais là, je voudrais me placer plutôt au niveau de la compréhension, comment on a besoin d'avoir des postulats, des présupposés pour pouvoir agir avec nos patients, et au fond, essayer de voir comment les postulats peuvent être vraiment différents ou converger, même si chacun a des terminologies différentes. Alors peut-être Catherine, tu peux réagir.
Moi, en écoutant là tout ce que vous êtes dit, j'avais dans ma petite tête, toi, ça te parlera tout de suite, parce que à certaines personnes ici qui connaissent l'ICV, l'être cellulaire. Mais ce ne sera pas une réponse, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse à ta question. Enfin, en tout cas, pas là, en trois minutes.
À laquelle ?
Le self, qu'est-ce que c'est que le... Alors, nous, en ICV, voilà, en ICV, il y a cette notion, il y a un protocole qui démarre pendant la vie intra-utérine, qui est le protocole de l'être cellulaire. Et effectivement, mais même là, ce petit être cellulaire, alors l'idée c'est que le spermatozoïde, enfin, vous avez des milliers de spermatozoïdes qui dansent autour d'un ovule, et puis quand même, à un moment donné, on ne sait pas non plus, on va vous dire c'est l'équilibre, juste à ce moment-là, la paroi est juste assez fragile pour que... Ok, tout ça c'est des éléments biologiques, mais au fond... Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un spermatozoïde arrive à percer la membrane, rentrer dans cet ovule et faire un œuf? Et pourquoi cet œuf, après, Alors vous allez me dire, ben oui, encore une fois, parce que les dosages, c'est juste comme il faut pour que cet œuf puisse s'installer dans la paroi utérine. Bon, pourquoi est-ce que les dosages sont juste comme il faut à ce moment-là? Enfin voilà, on peut vraiment... Mais donc ce petit être cellulaire, alors on pourrait se dire, en t'écoutant, je me dis, tiens, c'est lui, le self, l'être. Puis après, quand même, je me dis, mais ce petit être cellulaire, il arrive avec plein d'autres choses déjà d'avant, enfin, cet ADN. Cet ADN, il s'est transformé, il s'est nourri, il y a eu les grands-parents, les arrière-grands-parents, enfin les parents, enfin tout le monde. Donc est-ce qu'on est déjà... Enfin, je trouve que ça ouvre plein de choses quand même, ta question. Mais en tout cas, cet être cellulaire, et on le voit quand on fait ce protocole-là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que non seulement il arrive comme ça, on va dire, assez pur, assez... Mais en plus, ce que j'avais oublié dans mes études de médecine, c'est qu'il arrive avec, il y a une partie donc de cet œuf va se diviser, va faire le blastocyste, qui va faire le futur embryon, etc. Mais il y a une partie qui s'appelle le trophoblaste, qui va faire le placenta. C'est assez intéressant quand on y pense. C'est-à-dire qu'il arrive avec son petit sac à dos, quand même. C'est pas la mère, il est déjà un petit être, séparé, entier, et il va utiliser cet utérus... les nutriments qui vont arriver par tout le système sanguin, etc., les échanges entre le placenta. Et... Donc, il a trouvé un lieu pour grandir, pour commencer à être. Mais dans cette histoire-là, et c'est ce que disait M. Canoui hier matin, déjà, il reçoit, effectivement, enfin, on peut dire que l'être, il est déjà touché là, parce que si c'est une mère qui est extrêmement angoissée, ou si elle vit avec quelqu'un qui boit, qui hurle tout le temps, enfin voilà, déjà il y a des choses qui se passent. Alors retrouver l'être, c'est peut-être la méditation, mais en tout cas il est très très vite touché, donc on va toujours aller vers le suffisamment, enfin je pense. Et par contre ce qui moi m'interroge dans ton modèle, ce que j'ai peut-être pas très bien compris, c'est... Est-ce qu'il y a une unification? Enfin, est-ce que les parties se fondent? Est-ce qu'à un moment donné, je me sens comme moi entière? Ce qui, évidemment, voilà, moi qui vais travailler, effectivement, je suis Catherine qui va au travail, je ne suis pas la même que quand tout à l'heure, je vais aller retrouver mes enfants, on va s'amuser, on va se détendre. Mais je sais quand même toujours, j'ai quand même toujours cette sensation très, 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 très forte que c'est moi. Alors, toutes ces parties qui ont dû... Effectivement, on a, hein, je pense, nos patients, quand ils vont mal, ils ont vraiment ces parties, c'est plus fort. Ils ne sentent même pas que c'est eux. C'est presque des étrangers, c'est presque des aliens, quand même, un peu. Hein, enfin, est-ce qu'ils se fondent? Est-ce qu'à un moment donné, ils n'existent plus? Elles n'existent plus, ces parties.
Il y a deux jours, je faisais une présentation du modèle à Paris et je faisais une démonstration avec une cliente. Et on a fait toute la séquence. On a travaillé sur l'exilé, elle disait qu'elle a déchargé son fardeau, les protecteurs ont déchargé leur rôle. Et elle disait, elle commençait avec quelque chose qui était intéressant, parce qu'elle commençait avec une sensation physique de poids dans les jambes, qui la plombait le soir quand elle rentrait chez elle, et qui faisait qu'elle glandait, elle disait qu'elle foutait rien, qu'elle passait ses soirs à rien faire. Bon. Et donc, et à la fin, après ce déchargement et le travail avec le self, elle disait « je me sens dense, je me sens moi-même, je me sens dense ». Elle le disait naturellement. Et les gens qui étaient là voyaient la transformation du visage à quel point. Et c'est vraiment intéressant parce que ça montrait la différence entre le poids du fardeau et la densité qui est le résultat d'une expérience physique et aussi physique, qui est aussi physique, psychologique et physique, qui intègre les trois cerveaux, je pense, à ce moment-là. On est dans le ressenti physique, le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif qui est dégagé des croyances et qui est l'unification des trois cerveaux, je le pense, et du corps. Et ça, c'est ce sentiment de qui je suis vraiment avec ces parties. Alors effectivement, la question, c'est comment c'est ces parties. Et l'expérience qu'on a en IFS, c'est quand les parties se déchargent, ça ressemble presque à du self. C'est-à-dire qu'elles ont cette énergie de self à l'intérieur. Et ce qui fait qu'elles, naturellement, elles ont une tendance à vivre avec, et ça correspond à l'impression d'être soi, être dense, donc et non pas être plombé, être chargé.
Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça, c'est des mots que nos patients en ICV, c'est exactement ça. Ils vont vous dire, on se sent plus dense à l'intérieur, il y a un axe, c'est solide. Ils vont vraiment utiliser ces mots qui racontent bien cette solidité, cette unification. Et donc, bon, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a différentes façons d'arriver probablement un peu au même résultat. Alors par contre, quand même, ma question, c'est les troubles de l'attachement. Quand il y a une problématique de l'attachement, quand il y a vraiment une histoire extrêmement carencée au départ, c'est-à-dire qu'il... Vraiment, quoi... Comment on trouve des selfs, comment on trouve des parties, enfin les parties protectrices ou les parties...
Et c'est vrai que c'est intéressant qu'on travaille ensemble et qu'on soit à la même table, parce que je pense que la question de l'attachement, c'est un des trucs, ce matin, qui disait que le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, c'est un des aspects du traumatisme, et qu'il y en a plein d'autres, il y a les traumatismes, et comme évidemment les traumatismes de l'attachement, qui sont rien à voir avec le fait de voir une scène de guerre à l'âge de 25 ans. Donc, c'est autre chose qui se passe. Et là, je renvoie à ce que Laurence nous a montré, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques particulières à l'attachement. Notre cerveau, il est câblé pour l'attachement. Ça se passe dans le cortex orbitofrontal. Il est fait pour ça. Et que s'il n'y a pas les interactions sécures qui sont là à ce moment-là, eh bien, il y a des désordres qui se produisent dans cette partie du cerveau dont Laurence n'a pas parlé, mais c'est la partie au-dessus des orbites dans le cortex frontal. Alors ça, c'est un vrai problème, parce qu'en plus, à ce moment-là, et en plus, l'autre cerveau qui est au-dessus, le cortex préfrontal ventromédian, n'est pas non plus mature. Donc là, il y a un vrai problème, parce que lui, l'enfant, il est démuni, parce que lui, il a un traumatisme dû au fait que son cerveau orbitofrontal, il n'est pas activé comme il faut, et il y a des désordres là, et en plus, il n'a pas cette présence à lui-même, évidemment, qu'il va développer plus tard, pour guérir ça. Donc là, c'est une difficulté, c'est clair. Et ben, en IFS, on va être présent à ça. Ce qui est clair, c'est que en IFS, on travaille sur les choses préverbales, on travaille sur l'intra-utérin, on travaille sur des expériences intra-utérines ou de la naissance qui se manifestent de façon non-verbale à travers le corps. Donc ça, on a accès à ça. Ça, c'est clair, on a accès à ça. Quand le thérapeute
Alors,
est...
Je sais qu'il faut s'arrêter, mais on va quand même faire le mot de la fin. Moi, ce que j'entends, c'est que finalement, la sensation d'être soi revient dès lors que le reptilien est rassuré, dès lors qu'on se retrouve en sécurité à l'intérieur de soi. C'est la base. Et ça me permet de faire la transition avec les tables rondes, pas les tables rondes, s'il y en aura une en fin de journée, mais les trois interventions de cet après-midi et la table ronde de conclusion sur la question du sens. Tu voulais que je pose la question, François, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu pourras intervenir cet après-midi. Mais bien sûr que nous ne sommes pas uniquement un petit animal reptilien, mais que nous avons besoin d'asseoir notre sécurité fondamentale là. Et après, on peut commencer à faire un sens. Donc, comme Cyril Tarquignot nous l'a dit par rapport à ce que nous faisons, notre métier de psychothérapeute, c'est pas seulement d'appliquer un modèle. Nous sommes bien plus que ça. Enfin, nous faisons bien plus que ça. On ne sait pas très bien quoi, tellement c'est complexe, mais on sait que la relation thérapeutique va être déterminante pour appréhender la personne sous différentes facettes, et notamment celle du sens, qui va être celle de cet après-midi.
Ta ligne est bien continue.
Alors, on a donc toujours ce quart d'heure de retard. Je vous invite donc à revenir à 14h45 dans la salle, parce qu'on ne pourra pas faire moins vite, c'est pas la peine. On se garde notre petit quart d'heure de retard, c'est pas très grave. Donc, 14h45 dans la salle. Merci Catherine et merci François de vous être prêté à ce jeu des comparaisons. Merci beaucoup.
Merci.